Bonjour et bienvenue à tous dans ce premier épisode de notre émission intitulée Mixture, une émission 100% culture. Au programme aujourd'hui, les sorties cinéma de la semaine. Notre chroniqueur Alexis Andouard s'est rendu dans les cinémas mercredi pour faire le tour des sorties marquantes. L'occasion pour nous aussi de faire découvrir toute l'actualité cinématographique. Côté musique, l'album très attendu de The Weeknd est enfin dans les bacs. Thomas Amiot a pu l'écouter dès sa sortie, il nous proposera sa critique musicale. Ensuite, place à la chronique littéraire de Pauline Le Gall. Cette semaine a été ponctuée par des sorties poignantes et bouleversantes, l'occasion d'en découvrir plus sur certains auteurs. Un mot également de ce qui se passe dans le monde d'Internet, de Civilization 7 à Rocket League, Thomas Bovino nous fera un rapide tour d'horizon des actualités de la semaine. Pour finir, nous accueillerons notre invité de la semaine, Sylvain Mante, cofondateur de la plateforme cinéma Ozak et co-créateur d'un nouveau jeu de société 100% nantais sur le cinéma James Dean. Et on commence tout de suite avec la chronique cinéma. Bonjour Alexis.
Bonjour Antonin.
Alors Alexis, aujourd'hui vous êtes sorti des salles obscures pour nous parler des films de la semaine. Le premier film dont vous allez nous parler, c'est bien entendu le biopic sur Bob Dylan. Qu'avez-vous pensé d'Un parfait inconnu ?
Honnêtement Antonin, je suis assez déçu. Hein. Un parfait inconnu de James Mangold avait tout pour être un grand film, mais je trouve qu'il est passé à côté de son sujet. Alors bien sûr, la reconstitution du Greenwich Village des années 60 est superbe, et Timothée Chalamet livre une performance habitée. Il n'imite pas Bob Dylan, il l'interprète avec une vraie justesse, mais pour moi, il manque quelque chose d'essentiel, c'est l'âme du film.
Est-ce que vous voulez dire que le film est trop lisse ?
Oui, c'est exactement ça. Hein. En voulant éviter les dangers habituels du biopic, et on sait que c'est compliqué, Mangold choisit de ne pas rentrer dans la psychanalyse du chanteur. On le voit toujours à travers le regard des autres, que ce soit des admirateurs, des critiques ou des ennemis trahis, mais jamais pour ce qu'il est vraiment. Ce parti pris aurait pu être intéressant s'il ne laissait pas le spectateur aussi extérieur à son sujet. On a l'impression de voir un film qui tourne autour de son personnage principal sans jamais l'atteindre.
Mais il y a quand même des choses à sauver.
Oui, bien sûr, hein, la bande-son est magnifique. Chalamet chante lui-même et le fait très bien. L'ambiance du film est bien restituée avec une direction artistique soignée et une vraie volonté d'immersion. Mais tout ça, ça reste en surface. Il manque une émotion brute, une dramaturgie qui nous fait ressentir ce que Dylan a traversé. On assiste à une suite de moments clés, mais sans jamais vraiment les vivre.
Donc pour vous, Un parfait inconnu est un rendez-vous manqué.
Bah, disons que c'est un film frustrant. Il y a du talent, il y a des idées, mais on sort de la salle avec une sensation de vide. Bob Dylan reste insaisissable, ce qui est peut-être une intention assumée, mais cela empêche le film de véritablement nous emporter. Pour un biopic sur un artiste aussi révolutionnaire, j'attendais quelque chose de plus audacieux, de bien plus profond. Là, on est devant une belle vitrine, mais sans l'étincelle qui aurait pu la rendre inoubliable.
On remonte le temps maintenant. Alexis, vous avez été en salle voir Le Choix du pianiste, un film qui nous plonge dans les heures sombres de la Seconde Guerre mondiale à travers le destin d'un virtuose du piano. Alexis, vous avez vu ce film il y a 2 jours. Qu'en avez-vous pensé ?
Eh bien Antonin, ce film m'a profondément marqué. Le Choix du pianiste nous offre un voyage bouleversant dans le parcours de François Touraine, un talentueux pianiste obligé de jouer pour l'occupant nazi afin de sauver Rachel, son amante et professeure juive. La mise en scène de Jacques Haute-Mesguin est une sobriété remarquable, avec une reconstitution minimaliste qui évite le pathos excessif. Les images d'archives parsèment le film et renforcent l'ancrage historique de cette fresque tragique.
Ce qui frappe, c'est aussi la performance de l'acteur principal, non ?
Eh bien, absolument. Oscar Le Sage, qui incarne donc François Touraine, livre une performance remarquable. Il habite son personnage avec une certaine intensité, portant à lui seul une grande partie du film. Son jeu oscille entre désespoir et résilience, ce qui rend son parcours encore plus poignant. À ses côtés, Zoé Adjani se distingue aussi, même si son personnage semble parfois un peu écarté par la puissance dramatique du protagoniste.
Et la musique, elle joue un rôle essentiel dans ce film.
Oh que oui Antonin, et vous le savez aussi bien que moi, j'aime ça, la musique. Là, Chopin est omniprésent, presque un personnage à part entière. Ses compositions subliment l'émotion du récit, mais le choix exclusif de ce compositeur peut paraître un peu restrictif. Le répertoire pianistique est immense et j'aurais aimé entendre d'autres œuvres pour varier l'atmosphère musicale. Par moments, la mise en scène semble s'appuyer un peu trop sur la musique pour accentuer l'émotion, ce qui peut donner un effet appuyé.
Et un dernier mot sur l'approche historique du film ?
Bah moi, ce qui m'a frappé, c'est la retenue avec laquelle la période est abordée. La scène où un simple drap rouge frappé de la croix gammée suffit à illustrer la dictature en dit long sur la puissance symbolique du film. Haute-Mesguin ne tombe pas dans la surenchère visuelle, ce qui est une vraie réussite. C'est un film à voir, à ressentir, même si certains choix peuvent diviser.
On parle maintenant du Graal pour le cinéma français. Les nominations de la cérémonie des Césars 2025 sont tombées. Retour sur une année exceptionnelle pour le cinéma français.
Et oui, tout à fait, Antonin, et exceptionnel, c'est vraiment le mot. Trois films dominent le haut du tableau pour la cérémonie qui aura lieu le 28 février prochain à Paris. Le Comte de Monte Cristo, tout d'abord, avec 14 nominations, c'est énorme. L'Amour ouf, suivi de Très peu, avec 13 nominations. Et Emilia Pérez, le dernier film de Jacques Audiard, avec 12 nominations, des succès publics et critiques.
Le Comte de Monte Cristo en tête, c'était un succès attendu.
Oh bah tout à fait, avec ses 9 millions d'entrées, c'était un candidat naturel aux récompenses majeures. Pierre Niney est en lice pour le meilleur acteur et le film est nommé pour la meilleure réalisation et le meilleur film.
Et L'Amour ouf juste derrière, c'est un sérieux concurrent.
Oui, clairement, Gilles Lellouche signe un film puissant, Adèle Exarchopoulos et François Civil eux-mêmes livrent une performance remarquée et le film est aussi en course pour la meilleure réalisation.
Un mot sur Emilia Pérez qui a brillé aux Oscars.
Eh bien, Jacques Audiard surprend et met tout le monde d'accord avec cette comédie musicale en espagnol sur une narcotrafiquante en transition de genre, car la Sofia Gascón et Zoé Saldana, actrices principales du film, sont nommées pour la meilleure actrice.
Et du côté des révélations, qui se démarque ?
Bah, chez les femmes, on parle de Maïwenn Barthélémy et de Mallory Vanek qui retiennent l'attention, tandis qu'Abou Sangaré et Adam Bessa émergent aussi chez les hommes.
Un petit mot sur un truc en plus d'Artus, carton au box-office, mais seulement une seule nomination.
Alors oui, je vous reprends juste un peu, Antonin, c'est un petit truc en plus d'Artus et c'est évidemment une énorme surprise. Avec ses 10 millions d'entrées, on s'attendait à plus pour ce film. Il est en lice pour le meilleur premier film, mais rien dans les autres catégories.
Enfin, la cérémonie sera présidée par Catherine Deneuve et animée par Jean-Pascal Zadi. Des hommages prévus ?
Et oui, après une pluie d'invités de marque pour venir animer la cérémonie, Julia Roberts et Costa Gavras, le cinéaste de 91 ans, recevront tous les deux un César d'honneur pour l'ensemble de leur carrière.
Merci beaucoup Alexis, nous avons hâte de voir qui seront les heureux élus de chaque catégorie. On passe maintenant à la chronique musique, de quoi vous donner des idées, des albums à écouter en cette fin de semaine. Et la transition est toute trouvée car The Weeknd est de retour, n'est-ce pas Thomas ?
C'est exactement le cas, Antonin. Prévu normalement le 24 janvier, mais décalé au 31 janvier. Et après le succès planétaire de Dawn FM, l'artiste canadien revient avec Hurry Up Tomorrow, un album qui prolonge son exploration entre pop futuriste et mélancolie R&B. Un disque marqué par une ambiance cinématographique et une production léchée.
Dès les premières notes, qu'est-ce qui caractérise cette patte que maîtrise The Weeknd depuis tant d'années ?
C'est simple, on retrouve la patte de The Weeknd, synthé envoûtant, basse profonde et cette voix reconnaissable entre mille. Ici, il navigue entre nostalgie et espoir, avec des influences allant de la New Wave des années 80 à des sonorités plus électroniques et contemporaines qui ravivent des émotions pour les fans comme les connaisseurs. Les collaborations, notamment avec Metro Boomin, Anita ou encore Lana Del Rey sur The Abyss, ajoutent encore plus de relief à l'album. Leur duo crée un moment suspendu, mélangeant sensualité et désillusion.
Mais au-delà du son, cet album ressemble plus à une introspection pour l'artiste.
Il faut savoir, Antonin, que The Weeknd y explore la célébrité, l'amour brisé et l'urgence du temps qui passe. Certains titres comme Eclipse ou Lost in the Future résonnent comme des confessions, tandis que Neon Knight ramène sur le dance floor avec un groove implacable. Personnellement, c'est Reflection Loathing en feat avec Travis Scott qui a retenu toute mon attention.
Même si l'album est sorti hier, voyons déjà le fort impact qu'a l'artiste sur les fans.
Comme toujours, carte en plein sur les plateformes de streaming, les fans adhèrent, la critique salue une prise de risque mesurée, mais certains regrettent un manque de renouvellement. Pourtant, une chose est sûre, The Weeknd continue d'imposer sa vision et de redéfinir la pop moderne.
Artiste montant et reconnu de la scène rap derrière les prods de Lil Wayne ou Eminem, Tariq Azouz arrive avec son nouvel album chaque jour, affirmant son style, une démonstration de force ou une prise de risque maîtrisée. Pour ceux qui ne le connaissaient pas encore, en tout cas, nous vous dévoilons tout cela.
Tariq Azouz, le producteur français aux collaborations internationales prestigieuses, dévoile enfin son premier album solo intitulé Chaque Jour. Après avoir travaillé avec des géants du rap américain tels que Jay-Z, Lil Wayne ou encore Eminem, il revient aux sources en s'entourant d'une pléiade d'artistes francophones.
Et qu'est-ce qui symbolise ce premier essai en solo pour l'artiste ?
Rapidement, et ce dès les premières notes, l'empreinte sonore de Tariq Azouz est indéniable. L'album propose une fusion harmonieuse de sonorités trap, R&B et afro, offrant une expérience auditive riche et variée. Les collaborations avec des artistes tels que Chakola, Dinos, Lafèvre, Hamza, Kalash Criminel ou encore Monsieur Nov apportent une diversité d'univers musicaux, chacun ajoutant sa touche unique à l'ensemble.
C'est un casting impressionnant, mais est-ce que le fond est à la hauteur de la forme ?
Honnêtement, Antonin, au-delà de la production soignée, chaque jour se distingue par sa profondeur thématique. Le titre suggère une réflexion sur la persévérance et les défis quotidiens, thème récurrent tout au long de l'album. Les morceaux aussi entre introspection et puissance sonore, offrant un équilibre subtil entre émotion et technicité.
L'album reçoit-il des critiques positives ou négatives de la part du public ?
L'impact de cet album est déjà palpable. Les critiques saluent l'élégance et la cohérence du projet, tandis que les fans apprécient la qualité des productions et la pertinence des collaborations. Avec chaque jour, Tariq Azouz confirme son statut d'orfèvre du son et s'impose comme une figure incontournable de la scène musicale actuelle. Alors, chef-d'œuvre ou simple démonstration de savoir-faire, à vous de juger.
Elle ne voulait pas parler d'adieu, mais difficile de ne pas y voir un dernier tour de piste. Dimanche soir à la scène musicale, Sylvie Vartan a refermé un chapitre de sa carrière devant une salle comble. Une soirée chargée d'émotions pour l'icône des années yéyé, entre nostalgie et communion avec son public. Retour sur cet événement fort en symbole.
Exactement, elle ne voulait pas appeler ça une tournée d'adieu. Pourtant, ce 28 janvier, l'émotion était bien celle des grands départs. Devant une salle comble, Sylvie Vartan a fait vibrer son public une dernière fois, entre éclats de rire et instants suspendus. L'artiste a refermé un chapitre de sa carrière devant une salle comble, entre sourires et larmes, une soirée teintée de nostalgie où la chanteuse a fait vibrer son public une ultime fois.
À 79 ans, qu'est-ce qui a poussé Sylvie Vartan à tourner cette page ?
Difficile à vrai dire, Antonin, de réussir une telle chose pour celle qui a marqué des générations avec La plus belle pour aller danser ou encore Comme un garçon, qui a bouclé une tournée d'empreintes d'émotions. Face à ses fans, elle l'a dit avec sincérité, je n'ai pas envie de partir. Mais le temps fait son œuvre et l'artiste a préféré refermer ce chapitre en beauté.
Et sur scène, Sylvie Vartan a voulu marquer le coup avec des hommages forts.
Effectivement, Antonin, impossible de ne pas citer Johnny Hallyday, son grand amour qui n'était jamais bien loin, invoqué à travers Que je t'aime, reprise en chœur par la foule. Son fils, David, présent, n'a pas caché son émotion, témoin de cette ultime communion entre une mère et son public.
Mais alors, est-ce que c'est un au revoir définitif ?
Alors attention, Antonin, pas question de disparaître totalement, elle l'a promis, j'aimerais continuer à enregistrer, car une voix comme la sienne ne s'éteint pas. Elle résonne, intemporelle, quelque part entre le rock des 60s et les souvenirs d'une époque révolue. Adieu ou au revoir, peu importe. Une chose est sûre, Sylvie Vartan restera à jamais l'une des plus grandes voix de la chanson française.
Une voix en effet que nous ne sommes pas prêts d'oublier. Merci Thomas et à la semaine prochaine pour de nouvelles critiques musicales. C'est maintenant l'heure de la chronique littéraire de Pauline. Bonjour Pauline.
Bonjour Antonin.
Pauline, vous allez nous parler des dernières sorties littéraires et on commence fort avec le dernier livre de Gérard Davet, coécrit avec Fabrice Lhomme, intitulé « Les juges et l'assassin ».
Oui Antonin, c'est le succès du moment en librairie. Depuis sa sortie le 22 janvier, « Les juges et l'assassin » passionne les lecteurs. Un succès qui rappelle celui d'un président ne devrait pas dire ça et qui confirme, une fois encore, le talent du journaliste d'investigation. Dans ce nouvel ouvrage, les auteurs plongent au cœur d'une affaire judiciaire complexe, celle de la gestion du Covid en France. Une enquête minutieuse sur la conduite de cette situation de crise exceptionnelle, ils nous emmènent dans les coulisses du système judiciaire français, là où se joue souvent la frontière entre vérité et manipulation.
Et vous, Pauline, en tant que grande lectrice, qu'est-ce que vous en avez pensé à la fois du sujet, mais aussi de la manière dont il est traité ?
Alors Antonin, dès les premières pages, on sent le travail de fond, l'exigence du détail, cette volonté de ne laisser aucune zone d'ombre. Les faits sont analysés avec précision, les témoignages sont percutants et chaque révélation nous entraîne un peu plus dans les rouages d'une justice parfois impitoyable. Impossible pour moi de lâcher ce livre tant l'enquête est captivante. Et à cette occasion, j'ai eu la chance d'assister à sa séance de dédicace à Rennes hier soir. Écoutons un extrait.
On raconte de l'intérieur comment l'État français fait face à une crise qui est vraiment une crise inédite hein, dans l'histoire, ça restera. Et c'est rare qu'on ait accès à tous ces documents confidentiels. Nous, on s'est mis dans la peau, si je puis dire, de petites souris au cœur du pouvoir.
Autre dernière sortie de cette semaine, c'est le nouveau livre de Charles Biétry. Alors, Charles Biétry, c'est une figure incontournable du journalisme sportif français. Et le Breton revient avec son œuvre, La dernière vague, un livre mémoire.
tout à fait en Antonin, pardon. Pour rappel, Charles Biétry a façonné le paysage médiatique du lancement de Canal+ à ses passages sur TF1, France Télévisions, Eurosport et Beansport. Une carrière impressionnante, mais ici, il ne s'agit pas seulement de sport. Ce livre est un véritable témoignage. C'est avant tout une confession, une réflexion sur la maladie et sur la fin de vie.
Mais du coup, là, on nous parle de sport, on nous parle de fin de vie. Pourquoi il a écrit ce livre ?
Alors Antonin, en août 2022, Charles Biétry apprend qu'il est atteint de la maladie de Charcot, une pathologie dégénérative qui paralyse progressivement les muscles. Face à l'inévitable, il choisit les mots. Avec une lucidité désarmante, il partage ses craintes, ses espoirs et sa colère contre l'inaction des pouvoirs publics sur le droit au suicide assisté. Sans filtre, il offre un vrai regard sur la maladie et sur l'impact de celle-ci sur sa vie.
Et du coup, j'imagine que la lecture d'un tel ouvrage, c'est pas forcément évident.
Alors je dois dire que ça a été une lecture qui m'a profondément touchée. C'est un livre dont on ne ressort pas indemne. Page après page, on ressent toute l'intensité des mots, la force d'un homme face à l'inéluctable. Un récit bouleversant qui, longtemps après avoir refermé le livre, continue de résonner en moi. La dernière vague, c'est un adieu, une leçon de courage, un livre à lire, à méditer et à ne pas oublier.
Et on termine avec un tout autre genre littéraire, de la dark romance, c'est ça. Anita Riggins revient en force avec son dernier roman, Wicked Games, paru hier.
Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il était attendu. Pour cause, son écriture fluide et énigmatique a su faire d'Anita Riggins une figure incontournable de la romance sombre. On se souvient de Toxic Hell, Le jeu des menteurs, Le jeu des tricheurs ou encore Beautiful Sinner. Ce sont des récits où les émotions sont toujours à vif.
Et cette fois, Anita Riggins reste-t-elle fidèle à sa recette ?
Avec son nouveau livre, elle nous plonge dans une romance sombre comme les précédentes, où les plaisirs du passé et les sentiments inavoués se percutent violemment. On y suit ici Amaya, une jeune femme qui tente d'échapper à un passé douloureux en s'installant à Londres. Mais voilà, sa nouvelle vie la contraint à cohabiter avec Hunter Bamford, neurochirurgien, mais surtout meilleur ami de son frère. Entre blessures du passé, personnages torturés et proximité imposée, leur relation promet d'être aussi électrique que complexe, de quoi ravir ses fidèles lecteurs et séduire ceux qui la découvrent, Antonin.
Mais si je comprends bien, c'est un livre qui n'est pas forcément pour tout le monde. C'est un livre à lire quand même avec précaution.
Tout à fait, comme la plupart des œuvres d'Anita Riggins. Celui-ci n'échappe pas à la règle. Certaines scènes peuvent être difficiles, les thématiques abordées ne conviennent pas à tous les lecteurs. Ce roman est déconseillé aux moins de 18 ans, de même que tous les livres touchant à la romance sombre et mais aussi à la dark romance. Alors Antonin, prêt à vous laisser happer par ce nouveau jeu dangereux ?
Ah, j'avoue que la dark romance, c'est pas trop pour moi.
Ah bah pour moi, la réponse c'est oui. Reste à voir si je pourrais mettre la main dessus dès ce week-end.
Merci beaucoup Pauline pour votre chronique littéraire. On se retrouve tout simplement la semaine prochaine, même endroit, même heure, pour les prochaines sorties en fait.
Merci Antonin, et à la semaine prochaine.
Petit tour sur internet maintenant avec l'actualité du web. Bonjour Thomas.
Bonjour Antonin.
Thomas, aujourd'hui, vous allez nous parler de votre surprise quant aux récentes ventes de jeux vidéo.
L'autre jour, j'ai regardé par curiosité les meilleures ventes sur Steam, le site d'achat de jeux vidéo en ligne. Et je vois, en deuxième place des jeux les plus vendus de la semaine, Sid Meier Civilization 7. Étonnant, puisque Civ 7 n'est pas encore sorti. Le jeu qui coûte accessoirement 70€ pour l'édition de base ne sera accessible que le 11 février prochain.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste Sid Meier Civilization 7 ?
Pour être plus facile à prononcer, nous on appelle ça Civilization 7 ou Civ 7. Sid Meier, c'est le nom du créateur originel du jeu, qui fait toujours partie de l'équipe de développement aujourd'hui. C'est le 7e jeu de la saga, qui a commencé en 1991. Pour l'aspect gaming, c'est ce qu'on appelle un 4X, pour en anglais Explore, Expand, Exploit and Exterminate. Vous voyez le jeu de société Risk, le jeu de plateau où vous commandez une armée pour conquérir la carte ? Eh bien, imaginez une version similaire, surboostée et disponible sur ordinateur. Où il n'y a pas que l'aspect stratégique qui rentre en compte, mais aussi la culture, la technologie, la religion, le système politique ou la nation que vous représentez. Et tout cela en incarnant différentes époques de l'histoire du monde entier.
Et c'est-à-dire qu'un pays comme la France, par exemple, peut être jouable dans le jeu ?
Dans les anciens jeux, c'était plus ou moins le cas. Vous vouliez jouer la France, vous choisissiez parmi les leaders français historiques, comme Aliénor d'Aquitaine ou Catherine de Médicis. Le nouveau jeu, dans sa volonté de nouveauté, a décidé de modifier un peu cette façon de voir les choses. Vous choisissez séparément votre leader de son empire et le faites évoluer au fil du temps. Par exemple, vous décidez d'incarner Charlemagne, mais le peuple français n'existait pas à l'Antiquité. Alors vous choisissez de commencer votre épopée en jouant avec un autre peuple européen, comme les Romains. Arrivé au Moyen-Âge, vous faites évoluer votre empire en devenant les Espagnols durant la colonisation, avant d'arriver enfin à l'Empire français au 19e siècle, à l'ère moderne.
Et vous avez pu voir à quoi ressemble le nouveau jeu ?
Certaines parties du jeu sont accessibles et diffusées par le studio de développement envers quelques privilégiés. Si le jeu se veut inspirer de l'histoire du monde, ce 7e opus est un passage à la Renaissance. C'est du moderne, noir, mat, net, droit. Mais dans le même temps, on retrouve beaucoup d'inspiration de l'Antiquité dans la direction artistique. Franchement, c'est sombre, mais très classe. J'ai hâte de voir comment le jeu sera accueilli par la critique, même si ça s'annonce déjà comme une réussite financière.
Il se trouve aussi que des offres de contrats par Instagram pour des influenceurs TikTok auraient fuité.
En effet, plusieurs médias ont diffusé l'information selon laquelle des influenceurs sur TikTok auraient été contactés par Meta, la maison mère de Facebook, pour des contrats d'exclusivité. 6 mois avec une certaine quantité de contenu prévu uniquement pour Instagram, pour des contrats allant de 2 500 $ par mois jusqu'à 50 000 $ par mois.
Et ils disent quoi précisément ces contrats ?
Tous sont différents en fonction du prix. Pour le plus gros contrat, celui à 50 000 $ par mois, Meta demande que des contenus exclusifs soient publiés sur Insta. Meta demande que du contenu exclusif soit publié sur Insta, au moins 10 réels par mois, le format vidéo court mis en place par la plateforme, qui ne seront pas disponibles avant un certain temps sur les autres plateformes. Les créateurs doivent poster 25% de contenu en plus sur Instagram et faire la promotion sur les autres plateformes de leur compte Instagram. Ils sont également obligés de répondre à des commentaires tous les jours.
Et certains influenceurs se sont-ils laissés tenter ?
Pour l'instant, on n'a pas encore les chiffres, mais il semble que beaucoup ont refusé, arguant que la cadence de 25% en plus sur Insta ne serait pas tenable. Mais Meta veut qu'Instagram puisse concurrencer, par ses réels, les formats courts de TikTok, Snapchat ou YouTube. Et espère que l'interdiction de TikTok dans certains pays, surtout aux États-Unis, fasse changer les choses.
Et on termine avec de l'e-sport, avec le retour de la compétition sur Rocket League dès ce soir.
C'est le 2e tour des qualifications pour le premier tournoi mondial de l'année, le Major de Birmingham. Le jeu de foot où les joueurs sont des voitures volantes rassemble les foules et nos grosses équipes françaises sont bien parties. Garmin Corp et Vitality sont invaincus pour l'instant et devraient atteindre le top 4 qualificatif sans trop de difficultés. Garmin Corp serait même quasiment qualifié s'il gagne ce week-end sans avoir besoin de jouer le 3e tour de qualification.
Mais j'ai vu que l'équipe Gentlemate participait aussi. L'équipe de Gotaga, Brooks et Squeezie, pour eux aussi les qualifications sont jouables ?
Plutôt, même si leur tableau s'annonce plus difficile, l'équipe en partenariat avec Alpine a terminé 5e des dernières qualifs. Le top 4 est jouable, mais ils n'ont pas le droit à l'erreur.
Merci beaucoup Thomas et à la semaine prochaine pour de nouvelles actualités sur le cyberespace. Et on finit cette émission avec notre invité Sylvain Mante, cofondateur de la plateforme de vente de places de cinéma Ozak en 2021. Vous avez sorti il y a un an le jeu de société autour du cinéma et des films James Dean. Pour commencer, Sylvain, en quoi consiste ce jeu ?
Alors James Dean, on voulait créer un jeu d'humour, un jeu d'ambiance autour du cinéma qui soit jouable par tout le monde sans lancer un jeu qui était pro-cinéphile. Parce qu'avec mon équipe donc chez Ozak, un soir on a voulu se faire une petite soirée entre nous et on s'est dit tiens, on va aller acheter un jeu, on bosse dans le ciné, on va trouver un jeu de ciné. On a fait 3 magasins, on est vite tombé sur des quiz où il fallait trouver les réalisateurs et les acteurs, rien de très fun. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être un petit manque sur le marché du jeu. Et on a voulu lancer James Dean.
Et du coup, le jeu, c'est pour ceux qui s'y connaissent en cinéma et ceux qui s'y connaissent pas un peu. Quel est le profil adapté pour jouer au jeu ?
Eh bien, c'est tout le monde. On a voulu lancer un jeu de cinéma pour tout le monde. On n'a pas besoin d'avoir une grande cinéphilie pour pouvoir y jouer. On connaît les titres de films. On connaît grosso modo les histoires de tous les films cultes, même si on ne les a pas vus. Je vous dis une petite anecdote, j'ai jamais vu Titanic de ma vie. Pourtant, je connais le nom Titanic et je sais exactement l'histoire du film sans l'avoir vu. On a juste besoin d'avoir ses bases pour pouvoir jouer au jeu.
Et du coup, comment ça se passe le jeu ? Comment on joue ? Est-ce qu'il y a des cartes, des quiz ?
Carrément, il y a 3 catégories de cartes. Une première catégorie où c'est des titres de films qui ont été transformés. On a récupéré des mots, des synopsis, des mots inversés pour recréer des titres. Et du coup, l'objectif, c'est de trouver le titre original.
Est-ce que vous avez un exemple là, par exemple ?
Si je te donne un exemple, je vais en faire un simple pour que tu puisses comprendre. Si je te dis... La petite verte.
La grande bleue ? Le grand bleu ?
Voilà. Voilà, c'est un simple, hein, j'ai juste pris le mot inversé. L'objectif, c'est d'aller chercher des mots. Ça peut être plus compliqué. Je vais essayer d'en trouver un qui est un peu plus compliqué. Linge fesse ici.
Linge.
Lui, il est hardcore.
Linge fesse ici. Ah non, là, j'ai pas.
C'est Dracula. Linge pour fesse pour cul, ici pour là.
Oui, donc ça peut aussi être un rébus.
C'est une sorte de rébus, ouais. Le but, c'est d'essayer de trouver des mots qui sont dans le même champ lexical, des mots qui peuvent être inversés par rapport à l'origine. Donc, tu as plusieurs niveaux. Hein. Ça va de 1 à 3. Là, je t'ai fait un 1 et un 3. Donc, ça te montre un peu les extrêmes. On a une deuxième catégorie où c'est des synopsis racontés de manière un peu foireuse. Il faut retrouver le titre du film. Parce que dans l'idée, James Dean, c'est... le copain, le tonton, le papa qu'on a tous, qui essaie toujours de nous raconter une histoire toujours de manière foireuse et il n'y arrive jamais vraiment. Soit il s'attarde sur des détails inutiles, soit il a déjà oublié l'histoire juste après avoir vu le film. Donc ça, c'est la deuxième catégorie. Et la troisième, c'est un, grosso modo un qui autour de la table s'apparente le plus à la carte, au personnage ou au film qui est décrit sur la carte.
Et du coup, ça, c'est à jouer en famille, entre amis. C'est un jeu qui est fait pour les soirées. Comment vous l'avez imaginé, ce jeu ?
On l'a imaginé pour que ce soit un jeu qui soit jouable de façon simple. Donc il y a une règle, mais en soi, on n'a pas besoin de suivre la règle. Il suffit d'ouvrir la boîte, tirer une carte et on peut commencer à jouer. Donc on voulait un jeu vraiment simple, qui soit jouable autant entre amis qu'en famille, autant à l'apéro qu'à la pause au travail. Vraiment un jeu qui soit jouable par tout le monde et peu importe le moment où on y joue.
Et comment il a été reçu, ce jeu, par les gens, les ventes, comment ça a été
On a eu un très bon retour. Nous, pour l'histoire, on a lancé James Dean dans un premier temps sur une campagne Ulule. Donc on l'a mis en ligne sur une campagne de crowdfunding pour voir s'il y avait des personnes qui étaient intéressées. Et on s'était dit, on se met à un palier. Je ne sais plus combien c'était de jeux, ça devait être 200 ou 300 jeux. Et on s'est dit, si on arrive à atteindre ce palier, c'est qu'il y a un intérêt, que ça peut plaire, et du coup, on lance la production. Donc on a réussi à atteindre le palier, on était super contents. On a lancé le jeu. Et quelques semaines plus tard, quelques mois, deux mois après, il y a France Inter qui a joué au jeu en direct sur la matinale et qui l'a mis dans sa liste des cadeaux de Noël. C'était au mois de décembre 2023 qu'on a lancé le jeu. Donc c'était au moment de Noël. Et ils l'ont mis dans leur liste de cadeaux de Noël idéal pour à offrir. Donc là, ça nous a apporté une visibilité.
Ouais, ça a dû faire un sacré coup de pub.
C'était génial. Ouais, clairement, de les entendre jouer à la radio, on ne s'y attendait pas. C'était aux alentours de 7h30 du matin. En toute transparence, j'étais encore dans mon lit. Ce qui m'a réveillé, c'est les notifications de mon téléphone, de mails pour annoncer des ventes, etc. Et on a vendu, je ne sais plus combien c'était exactement, ça devait être entre 600 et 800 jeux en 17 minutes, 18 minutes. Donc tous les stocks ont été écoulés.
Oui, donc en fait, c'est qu'il y avait vraiment, il y a vraiment un marché possible. Et en fait, au début, c'était juste voir est-ce qu'il y était, c'est ça ?
Ouais, carrément. Ouais, il y avait vraiment un marché. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il y était. Donc le boost de France Inter, après, nous a permis de continuer à vendre le jeu, d'avoir des premiers retours de joueurs qu'on ne connaissait pas, de testeurs, etc. Et on nous a commencé à nous demander une suite. Donc on s'est dit, si on nous demande une suite du jeu, c'est que ça plaît. Et depuis, on en a vendu plus de 4000 maintenant, et puis il suit sa route.
Et justement, parlant de suite, est-ce qu'il y en a une prévue ? Est-ce qu'il y en a une qui est sortie ? Comment vous imaginez la suite ?
On travaille sur la suite. Là, l'objectif sur cette année, c'était de collaborer avec un distributeur pour que le jeu soit proposé dans le plus de magasins possible en France. Parce que pour l'instant, il est essentiellement revendu sur Internet et au sein de quelques magasins en France, mais on aimerait bien agrandir le parc de revendeurs. Et en même temps, lancer une suite. Donc là, on n'a pas de suite officielle à annoncer parce que c'est encore en plein
développement.
En plein développement, en plein brainstorming. On est en pleine réflexion de si on crée un nouveau James Dean qui reprend un peu la même identité que le premier, mais avec des nouvelles questions, des nouvelles thématiques, ou si on crée un nouveau jeu complètement différent, qui est toujours sur la thématique du cinéma, mais qui n'a rien à voir avec la façon de jouer du premier. Donc on est en pleine création et on verra ce qui... L'objectif, c'est de le sortir courant du deuxième trimestre, donc on verra où ça nous mène.
Merci beaucoup Sylvain pour cette interview. James Dean, le jeu de ciné complètement barré, t'as retrouvé en boutique ou directement sur le site d'Ozac.
Merci beaucoup.
C'est déjà la fin de Mixture, c'était un plaisir d'être avec vous pendant cette émission. Pour rappel, vous pouvez la retrouver sur le site ADN-actu. Nous, on se dit à la semaine prochaine, même endroit, même heure, et d'ici là, portez-vous bien !